c'est parti. Beaucoup de cœur, beaucoup de portée de balle. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'a fait Bryson DeChambeau, c'est juste magistral. Bryson DeChambeau écrit son histoire et remporte son deuxième majeur. Ce garçon a du cœur. Ce garçon est incroyable. Ce garçon est fait pour être aimé par l'Amérique.
Le Practice RMC.
Ah, que cette victoire à l'US Open semble loin pour Bryson DeChambeau. C'était en 2024. Il décrochait alors son deuxième majeur en carrière. Il est toujours bloqué à deux. Cette année 2026 débute mal pour lui en majeur. Plus 6 à Augusta, il n'a pas passé le cut. Plus 7 à l'USPGA la semaine dernière, il n'a pas non plus passé le cut. Sur le livre, ses prestations sont plutôt bonnes, voire très bonnes. Deux victoires déjà depuis le début de la saison. Mais c'est évidemment en coulisses que tout est en train de se jouer. Le livre est en sursis, vous le savez, et le bison pourrait avoir des envies d'ailleurs. Voici ce qu'il a déclaré il y a quelques jours. J'adorerais faire plein de doublages dans différentes langues pour donner au monde encore plus de raisons de regarder YouTube. Et puis, j'adorerais, comme ça, participer à des tournois où l'on me sollicite. Bryson DeChambeau est-il en train de se perdre? Vous en pensez quoi? Je vais aller voir Martin Coulon tout de suite sur cette question.
Moi, j'aurais tendance à dire qu'à court terme, oui, mais que si tu raisonnes uniquement à court terme avec ce joueur-là, tu rates ce qu'il est, en fait. À court terme, clairement, oui, il est en pleine...
Je prends un papier et un crayon.
Tu peux. Clairement, à court terme, il est en pleine tempête. Enfin, je veux dire, le gars, t'avais juste à le voir au practice du PGA. Il est perdu de recherche. Enfin, je veux dire, il cherche tout. Il cherche son driving, il cherche son jeu de fer, il cherche son wedging, il cherche son putting. Son petit jeu, c'est une catastrophe ambulante depuis Augusta. Mais il traîne une blessure depuis la Ryder Cup, au poignet, à l'épaule. Et puis le livre, c'est incertain. Et lui, l'incertitude, il n'aime pas ça. Donc il est dans un moment de... Il est en tempête, ce bonhomme-là. Il est vraiment dedans. Tu vois. Il se prend des vagues en plein dans la tronche. Il ne parle plus à la presse, il ne parle plus à personne. Il rate des cuts dans tous les sens. Mais... Faut pas oublier que depuis son passage sur le livre, il y a 14 majeurs, il y a une victoire, 8 top 10, dont deux fois deuxième. Quoi. Et que 2025, c'était 5e au Masters, 2e du PGA, cut à l'US et 10e de The Open. Donc on parle quand même d'un bonhomme. Ok, là, il y a deux tournois de suite majeurs où il rate le cut vraiment dégueulasse. Enfin, le triple à Augusta qui prend sur le 18 le deuxième jour, c'est t'as envie de crever. Les allers-retours qu'il fait d'un bunker à l'autre ou pas loin au PGA le deuxième tour, t'as envie de crever. Mais au-delà de ces résultats à la comptable de court terme, c'est pas si catastrophique que ça, quoi.
Peut-être pas si catastrophique que ça, mais ce qu'on se dit en ce moment, c'est que je trouve qu'il caractérise la chute du livre. Peut-être j'essaye de m'exprimer bien.
Excusez-moi, on m'appelle. C'est une émission philosophique ou
culturelle? Pardon. Oui, c'est
ça. Je vais essayer de m'adapter.
Exactement. Oui, oui, tu vas voir, ça va bien se passer. Moi aussi, ça m'a fait bizarre la première fois. En fait, j'ai l'impression que depuis qu'il y a le départ du livre, en tout cas qu'il y a le départ du PIF, et donc le livre est incertain, on ne parle que de lui.
Mais c'était la figure tutélaire du livre.
Non, mais
c'était l'une des grosses figures tutélaires.
Il y a eu Rahm. On sent que Rahm, bon, ils vont pouvoir s'arranger si jamais il veut revenir et tout ça. On sent que lui, ça cristallise toutes les tensions. Lui, en gros, il ne serait pas forcément d'accord avec l'arrêt du livre. Donc, il a plutôt envie de se dire « Ok, s'il n'y a pas le livre, moi, je vais faire des vidéos YouTube. » C'est très rapidement
résumé. Ouais.
Résumé. Mais, c'est la sensation que ça donne.
Ouais, enfin, il y a quand même, je pense que vous l'avez, mais je vais le répéter. Quand Bryson est arrivé sur le livre, il a négocié le fait d'avoir une chaîne YouTube. Et le livre lui a répondu, attends, nous on gère les droits de tous les joueurs, comme ça c'est en Formule 1. Et ça a toujours été un peu un sujet conflictuel avec le livre, parce qu'il a dit, je joue sur le livre, mais j'ai mes trucs sur YouTube, je veux les
pousser,
les développer, merci. Et eux n'étaient pas trop d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je te rejoins, on ne peut pas perdre un joueur comme DeChambeau. Fond de jeu, niveau de jeu beaucoup trop important pour à un moment donné pas aller nous planter encore un majeur cette année. Donc, le joueur, on ne l'a pas perdu. Et je pense qu'il est peut-être beaucoup plus fragile. Et tu l'as dit, aux tractations qui se passent en ce moment. Et en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'un but, d'un avenir, et que là, il ne sait pas où il va
déteste
aller.
Déteste l'incertitude. Bah, non, mais, déteste ne pas contrôler. Voilà, il déteste ça.
Oui, mais... Exactement. Vas-y, je te laisse.
Non, c'est simplement... Je ne vois pas pourquoi ce mec-là, qui était en 25, énorme qu'a fait une Ryder Cup aussi, énorme qu'a fait. Tout d'un coup, il joue sur le livre parfait, et là, t'as l'impression qu'il est moins dedans, mais il est peut-être moins dedans, parce que, et puis, pardon, il a peut-être d'autres problèmes qu'on connaît absolument pas, et... Il y a peut-être des problèmes de cœur. Hein.
Oui, alors mais moi, là, je pense que le livre, lui, il n'y est pas allé pour le chèque. Il y est allé aussi pour, en effet, la liberté que ça lui laissait.
Il est allé aussi un peu pour le chèque. Oui, rappelle-moi son nom.
Je pense que personne...
Yassir Al-Romayan.
Ah, excellent. Personne ne l'a refusé, mais l'argent... Mais je pense qu'il y est allé, en effet, pour ne plus être contraint par le calendrier du PGA, ne pas passer 4 jours par semaine pour voilà, et donc se dégager du temps. Un petit peu comme un Cam Smith, sauf que lui, c'est pour aller pêcher avec ses copains en Australie. Donc, pour la liberté que ça lui offrait par rapport à un planning qu'il trouvait contraignant. La question, c'est de savoir perdu pourquoi pour le golf de haut niveau tel qu'on l'entend en ce moment, ou perdu dans sa vie, dans sa quête de... Bon, je pense que, de toute façon, il a un problème de surmoi à régler, ce garçon, et qu'il a besoin de parler à quelqu'un. Beaucoup de choses à raconter, mais ça, on s'en fout, c'est son problème. Ce que je veux dire, c'est que s'il veut... Tu vois, on parle souvent « to grow the game », faire grandir le jeu. Alors, pas forcément le faire grandir, mais diversifier son approche et la moderniser. Il s'adresse à un public et il va toucher un public qui ne regarde certainement pas les dimanches du PGA. Et à ce titre-là, bon, c'est une réussite. S'il préfère, je pense qu'en revanche, ce qui va être difficile, c'est continuer à développer sa vie numérique et sa popularité sur YouTube notamment, tout en continuant à garnir la cheminée de trophées.
Mais il y arrivait quand même.
Oui,
il y arrivait.
Justement, la question, on la pose cette saison, on la posait pas l'an dernier, parce que t'as l'impression quand même que son YouTube là, ça vire un petit peu à l'obsession. À côté de ça, Martin a souligné, bon, il est cuté deux fois pour les deux premiers majeurs de la saison. Il est plus 20 sur les 4 tours. En cumulé sur les 4 tours de majeur qu'il a disputé en 2026. Et là, si on parle juste de Bryson, le golfeur, donc il envoie 76 le premier jour à Ronny Mink pour le PGA Championship, en faisant birdie au 18, donc c'était pas loin de faire 77. C'est un carnage absolu. Et moi, ce qui me dérange, c'est un obsessionnel, il est jusqu'au boutiste dans sa démarche. Je ne sais plus quand le vendredi, alors qu'il doit tout faire pour essayer de faire le cut. Tu le vois, on a souligné la semaine dernière que finalement, la clé pour gagner ce PGA, ce n'était pas de driver le plus loin possible. Ben Bryson, il n'a pas, pas d'autre version de son logiciel. Quoi. Voilà. C'est-à-dire, il était à plus 5 ou plus 6 et il continue à se déchausser au départ. Et quand tu saccages la balle comme Bryson, et ben quand tu la rates d'un ou deux degrés dans la phase de club, tu prends 50, 60, 70 mètres à droite. Donc au bout d'un moment, quand en plus tu ne rates pas un putt et que tu peux pas sauver tes cartes avec le scrambling, il ne faut pas s'étonner. Donc moi, j'ai un peu peur que dans cette démarche, moi contre le système, moi contre la technologie, moi contre l'industrie du golf, j'ai mes clubs, mes shafts, mes trucs, je fais flotter mes balles dans de l'eau salée, de machin et tout, et je vais continuer à vous cirer quand je le déciderai sur les tournois qui m'intéressent. J'ai peur qu'il s'enferme dans une logique qui, vu la densité de joueurs autour de lui, lui permette plus de dominer. Et je pense que de toute façon, il n'a plus envie, même si le livre s'arrêtait et qu'on lui proposait des conditions un petit peu... à la cool, plus cool qu'à d'autres pour revenir, je ne suis pas sûr qu'il accepterait de se repeler des saisons sur le PGA à l'ancienne.
Okay. C'est pour ça aussi qu'on l'aime, ce gars-là, c'est un showman, et c'est l'image qui s'est donnée aussi sur le golf, en tout cas moi c'est l'image que j'en ai. Si on revient à la question de départ, est-ce qu'il est perdu pour le golf? Moi personnellement je ne pense pas qu'il soit perdu, c'est un mec physiquement... Je trouve qu'il est bien, il est présent, il est affûté. Voilà, c'est juste que je pense peut-être qu'il s'est un petit peu dispersé, qu'il a beaucoup de projets à mener et que bah, finalement, il faudrait peut-être qu'il se recentre un tout petit peu plus sur son jeu. En effet, voilà, tu vois sur son wedging, il est parfois 5-10 mètres derrière le green. Tu te demandes pourquoi à ce moment-là il sort un truc comme ça. Voilà, il est dispersé, il est là sans être là, et c'est pour moi ce qui lui manque. Il a juste besoin peut-être de recentrer les choses, de se redonner des priorités. Et à mon avis, il sera performant. Il a gagné l'US Open en 2024, c'était pas si longtemps que ça. Il a raté quelques cuts, ok. Il rate ces deux cuts-là, ok. Moi, là où je vais pouvoir répondre différemment peut-être à cette question-là, c'est si à l'US Open, il passe pas le cut et qu'il fait un tournoi merdique, là, on pourra vraiment se poser des questions parce que ça sera...
Non, mais ça
pour moi, c'est un parcours
quand même les copains, ça arrive des saisons sans. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et ça arrive de rater deux majeurs. Il en a déjà gagné deux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la question qu'on se pose, et je te lance Ramucho, c'est aussi de se dire, si jamais ça s'arrête avec le livre, qu'il a les mêmes conditions que Patrick Reed, qui doit retourner sur le DP ou qui doit... Est-ce que vous le voyez faire tout ce chemin pour revenir sur le PGA Tour ?
Ça dépend de ses priorités.
Bah, moi, je le vois tout à fait revenir sur le PGA. Moi, ce qui m'inquiète, pour abonder dans le sens de Simon, c'est qu'il n'y a aucune remise en question depuis le début de sa carrière. Voilà. Donc, il a quand même un profil très particulier. Il travaille, comme tu l'as dit, Simon, avec des datas. Il travaille avec des clubs particuliers. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ce type-là, il l'a prouvé, hein, c'est une F1 poussée à l'extrême. Tu vois, on a poussé au maximum les capacités de ce joueur. Et là, il est en train de faire une sortie de route. Mais pour autant, ben, on ne le voit pas. Moi, ce qui m'aurait plu, ce qui ne m'aurait pas inquiété, c'est qu'il se pose et il dit, bon, on va peut-être modifier un tout petit peu ce logiciel ultra performant que je recherche avec le matériel.
Mais pourquoi ? Pardon, Ramouchou. Bah pourquoi tu veux qu'il le modifie parce qu'il a raté deux cuts alors qu'il a fait une année 25 de malade. Il a fait un début 26 sur le livre.
Mais ce qui est gênant,
tout à fait respectable.
Dans tous les parcours de chaque joueur, il y a à un moment donné, tous les joueurs ont une petite, à degré différent, remise en question. Pour l'instant, ça n'est en aucun cas.
Mais tu aimerais qu'ils remettent quoi en question ?
Bah, peut-être oublier un tout petit peu ses datas, où c'est vraiment là-dessus qu'il se base, retrouver un petit peu d'essence dans le golf, un petit peu de...
Ok, mais pourquoi tu dis pas ça de Fitzpatrick, qui est peut-être pire que lui dans la...
Oui, il a un jeu, Fitzpatrick, beaucoup, beaucoup moins exigeant. Il a un fond de jeu, un swing, une technique, on va dire, pour parler très généralement, beaucoup moins exigeante que lui. Lui, il recherche le coup, les trajectoires, le bas. Voilà, ce que je reproche à Bryson, c'est encore une fois... Ce genre de joueur n'est pas assez respectueux du parcours, du jeu lui-même. Il veut être au-dessus du jeu.
Là, je t'en rejoins. Maintenant, techniquement, c'est ultra simple ce qu'il fait. Hein.
C'est toi qui le dis.
Juste quand même, c'est bien qu'on parle un peu de technique, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours beaucoup. Mais Bryson a amené ou a continué de pousser encore plus loin ce que Tiger avait amené à la puissance au golf. C'est-à-dire que c'est un mec et en plus qui a travaillé avec un coach que je connais bien, qui est Chris Como, et qui l'a aidé à comprendre comment on pouvait taper encore plus loin. Et donc, il a amené le fait de lever le pied gauche au backswing, de tourner plus le bas, de stretcher très haut. Donc, oui, il a amené de la modernité au jeu de golf.
Mais à 100% d'accord.
Moi, j'ai l'impression que ces deux premiers tournois, c'est un peu de la provoque. C'est un peu de la provoque. C'est de dire, j'arrive, je joue, j'en envoie partout, j'emmerde tout le monde. Et tant que c'est un peu le gosse qui n'a pas encore son jouet, tant qu'on ne m'aura pas donné mon jouet, c'est-à-dire ou YouTube, ou le livre, je vais en mettre partout, ça va m'amuser. Et je vous emmerde.
Tu crois que ça l'amuse ?
Non, c'est pas possible que ça l'amuse. Là. C'est un compétiteur
comme
il est. Je ne
dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, ça donne... Et puis, de toute façon, alors Augusta, peut-être pas, mais le parcours, là, c'était tout sauf pour lui, quoi. C'est un parcours où tu dois mettre défaire.
Ah, Ronnie Ming, tu veux dire, le PGA, ouais.
Ouais, mais c'est ça le problème du jeu de Bryson DeChambeau au sens large du terme, c'est que c'est un jeu qui est on-off.
Exactement.
Soit si c'est tout dedans... Et ça fait des performances exceptionnelles.
Personne ne lui résiste.
Comme à l'US Open. Aucun parcours ne lui résiste, personne ne lui résiste, y compris les tests les plus compliqués de golf qui soient. Mm. Et comme tu dis, il est au-dessus du golf, au-dessus de la manière dont on doit jouer à l'US Open. Le premier US Open qui gagne, tu te dis, non mais c'est quoi ce truc, quoi. Et par contre, quand ça ne va pas dans son sens, que son driving il est à l'ouest complet comme il l'est, comme son contrôle des profondeurs est à l'ouest depuis un bon bout de temps, ses résultats l'an dernier, ils sont un brin masqué par... Ce petit souci de gestion de profondeur et cette gestion de, d'une balle qui vole trop. Tellement, il a tellement de vitesse, ce mec-là. Il la met tellement fort, non, mais, tellement haute.
Non, mais vous savez
que ça
pourquoi aussi
fou, quoi.
Enfin, on l'a déjà dit, moi, je veux bien le redire. C'est que ces têtes de club, de fer, sont construites comme des hybrides.
Oui.
C'est-à-dire que la balle rebondit plus.
Elle sort sur plus la face vite, de plus
moi, j'ai eu
club.
La chance, parce que j'ai visité en Californie l'usine Cobra. Déjà, les grippes. Enfin, c'est, t'as les jumbo, mais là, les jumbo, c'est les grips les plus gros, mais là, c'est encore plus gros. Et sa face de club est faite comme un hybride. C'est-à-dire que c'est un peu creux. Il y a un rebond un peu différent. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, il fait.
Enfin, c'est de temps en temps souvent, en fait.
Oui,
c'est ça,
mais je suis d'accord avec toi.
C'est ça qui m'embête chez ce bonhomme-là. C'est que c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses intéressantes à choper de ce bonhomme-là, techniquement, dans la façon d'aborder le jeu, dans la façon de révolutionner le jeu ou autre. Mais il y a un moment où, et c'est là où je rejoins Ramucho sur le côté, il y a une sorte de remise en cause. Et je sais qu'il l'a fait, cette remise en cause, parce que quand il fait deuxième du PSG l'an dernier. Avec, j'ai encore en tête ce coup de fer 7 au 17 qui fly complet ou qui prend le vent, il regarde la balle, genre mais qu'est-ce qui se passe, je comprends rien. Bah, Bryson DeChambeau, tu le mets dans le vent, il est perdu de recherche, mais complet. Tu le vois au dernier tour de The Open l'an dernier, alors qu'il était à la bagarre, il finit quand même top 10, et il fait 78 je crois le dernier jour, ou 75, je sais plus. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais il est perdu parce qu'il y a du vent, et que Bryson DeChambeau dans le vent, c'est bye bye, au revoir, dans la tempête, il s'envole malheureusement.
Ça reste un mec incontournable pour le golf mondial.
On a besoin de ce type de ce genre de
ouais,
de
mais on a besoin d'un Bryson qui soit moins on-off, on a besoin d'un Bryson qui remette un peu de vie là-dedans, un peu moins c'est moins robot. Quoi,
non mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On lui dédie un numéro?
Ah bah, bien sûr,
ça veut dire
évidemment qu'il est intéressant.
Quand même dire qui joue bien ou qui joue mal, il interroge et on a envie que ce mec-là continue à jouer. Et moi, très sincèrement, ça m'emmerderait, parce que moi, je regarde jamais YouTube,
C'est cool.
D'aller le voir sur YouTube.
C'est cool, il fait des trucs.
On
cool,
va
hein.
faire des trucs sur YouTube, vous allez voir les mecs, nous aussi, on va.
Il fait des trucs cool.
Le jeu.
Mais c'est, moi, la question, en fait, la question que je me pose par rapport à ce début de saison et en particulier peut-être le côté Fabien, tu disais provoque de ces résultats. Pourquoi pas, mais ça peut être une lecture intéressante de ces deux résultats-là et de ce décote manqué. Mais et ce côté un peu sale gosse qu'il a quand même, quoi. Genre, quoi, comment ça, j'ai pas mon demi-milliard de dollars. Non, c'est pas normal. Je veux mon jouet, donc je vais faire du YouTube. Moi, il y a une question peut-être un peu plus large qui m'interroge. C'est est-ce que ce bonhomme-là, il préfère pas être un entertainer, un gars qui divertit? Plutôt qu'un champion, quel genre d'héritage il veut laisser aux
États-Unis? C'est la question qu'on se pose tous aux États-Unis. Dès que ça parle de Bryson, tu as les pour, les contre, et en tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'il est un carrefour. Je l'avais cité dans un numéro précédent, quand il y a eu les premières rumeurs de fermeture du livre, on lui a dit alors vous et tout. Donc, il nie évidemment discuter avec les mecs du PGA, libre à nous de le croire ou pas. Et il a dit dans une des rares interviews qu'il a données que. Il était toujours intéressé pour investir et développer non pas le Live Golf, mais le Team Golf, le golf par équipe. Voilà. Donc, la précision a quand même juste son importance. En attendant, il y a quand même, si on se pose la question, Fabien, je pense que c'est parce que Martin a rappelé l'an dernier, donc c'est 3 top 10 et un cut manqué en majeur. Là, c'est 2 cuts ratés et dans des très grandes largeurs. Il s'est fait allumer là, par Brian Smith dans Talksport US qui a dit « Nobody wants to live on Bryson Island ». Personne ne veut vivre sur l'île de Bryson. Il a dit, bon, c'est un peu chelou. Alors, ça doit être une île bien équipée, je pense. Mais, en effet, tu ne sais pas bien à qui... En ce moment, tu ne sais plus très bien à qui t'as à faire parce qu'entre la sérénité qu'il dégage sur les réseaux, sur le livre où il n'y a pas beaucoup d'adversité, mais il a gagné, je crois, c'est à Singapour, en Afrique du Sud, déjà cette saison. Et tu as l'impression que quand il retrouve un truc un petit peu, le plancher des vaches, il est plus, adapté. Quoi.
Spontanément, là, citez-moi trois mecs, spontanément, hein, trois mecs les plus valeurs marchandes du golf mondial.
Rory, Tiger, Ram, Scotty, Rory.
Pour moi, il est devant Scotty largement. Hein. C'est Rory,
personne,
Tiger...
Mais moi, je te mets DeChambeau.
Je croyais que tu disais à part lui. Oui. Oui.
Mais tu vois, ça m'inspire ce côté bien un sûr. Peu... Donc, il s'est créé un personnage et il a raison de le faire parce que ce sont des personnages, ce sont leurs propres marques.
C'est lui, Martin.
Il s'est trouvé, il a fait sa chaîne YouTube et il s'éclate. Et franchement, ce qu'il fait, il y a vraiment des numéros qui sont très sympas à regarder.
Il ne se travestit pas du tout.
Mais je me demande si justement, il ne se perd pas là-dedans dans son propre personnage, tu vois, de se courir après lui-même.
On ne va pas dire qu'il se perd parce qu'il a raté deux cuts en majeur. Sinon, il y a un paquet de mecs qui se
divertit lui-même. Comment on dit
On disait quoi de McIlroy quand l'année dernière
Ouais, mais il ratait pas les shots dans les mêmes proportions que Bryson quand même.
Et c'est ça, Rory, il se divertissait entre guillemets lui-même avec ses histoires de livres, à prendre position sur le PGA Tour et se.
En tout cas, il faut
oublier le cœur de ce qu'il fait, à savoir d'être un pro de golf, toi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée.
Alors ça, c'est sûr, il faut qu'il reste et on a très envie de le revoir au premier plan parce que c'est vrai qu'un tournoi avec un Bryson DeChambeau, ça a une autre gueule et il donne une dimension aussi au golf et on sait à quel point on a besoin de ce genre de joueur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Bryson DeChambeau. Évidemment, on suivra ces prochaines semaines son évolution et on espère que ça va bien se passer pour lui lors du prochain US Open et on sera là pour en parler.